Bonjour à tous. Donc, je voudrais ce matin vous emmener dans le livre de la Genèse et lire un passage qui est bien connu, puisque c'est le passage où Caïn s'est trouvé un chemin et il y avait pour lui une alternative là. Soit il s'améliore, soit il ne s'améliore pas. Et ce passage, on va le lire donc dans la Bible de Chouraki, enfin la Bible traduite par Chouraki. Et c'est pour ça que enfin, vous pouvez retrouver le texte dans Genèse 4, 5, 7 dans votre version habituelle si vous voulez. Alors, Yahvé Adonai considère Abel et son offrande. Caïn et son offrande, il ne la considère pas. Cela brûle beaucoup, Caïn. Ses faces tombent. Yahvé Adonai dit à Caïn, « Pourquoi cela te brûle-t-il? Pourquoi tes faces sont tombées? N'est-ce pas que tu t'améliores à portée ?» ou que tu ne t'améliores pas. À l'ouverture, la faute est tapie, et sa passion à toi. Toi, gouverne-la. Alors on a un peu l'impression de parler petit nègre, mais en même temps, c'est une traduction qui est très très proche du texte. Et le morceau clé que je retiendrai ce matin, c'est cette question. Pourquoi cela te brûle-t-il? Dans nos traductions habituelles, c'est « Pourquoi es-tu irrité, Caïn ?» Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi ta face, là, c'est tombé, quoi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, c'est bien là le moment. Soit tu t'améliores à portée, ou bien tu ne t'améliores pas. Voilà, eh bien, de nombreuses études sont publiées dans la presse hein, pour nous dire que les Français sont des râleurs, hein, que les Français sont violents, dans leur cité en tout cas, qu'ils sont dépressifs dans leur vie privée. Alors nous n'avons pas l'apanage des problèmes, hein. On peut se consoler en disant que bah, nous ne sommes pas les champions de l'alcoolisme, de l'obésité ou du terrorisme. Chacun sa culture, n'est-ce pas? Mais moi, là-dedans, qu'est-ce qui me brûle? Est-ce que je n'ai pas aussi envie par moment de péter un plomb? Est-ce que je ne sens pas en moi cette violence qui me chauffe, qui me brûle? Ah, celui-là, il ne perd rien pour attendre. Et d'un air rageur, j'ai claqué la porte. Enfin, la porte, elle n'y était pour rien dans cette histoire. Hein. Bon, c'est vrai, on n'est pas tous des meurtriers comme Caïn. Mais Jésus a dit, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Quelle est ta brûlure? Qu'est-ce qui te brûle? Demande Dieu à Caïn. Qu'est-ce qui fait que ton visage est abattu, que tu es décomposé? Alors c'est vrai que nos brûlures intérieures, elles peuvent des fois prennent pas forcément la forme d'un meurtre. Des fois elles sont plus polies, elles sont moins explosives, elles sont parfois plus hypocrites. Et cette passion qui est en nous, et que nous constatons, que nous voyons là, tout à coup, Dieu nous dit « gouverne-la ». C'est incroyable comme un gros bateau lancé à pleine puissance par les flots impétueux, par un simple gouvernail, peut être dirigé au gré du pilote. C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 3, verset 4. Alors, peut-être on pourrait se demander un petit test psychologique. Quel type de brûlure je consomme si vous dites habituellement « Ah, celui-là, je vais en faire de la bouillie hein !» Alors là, vous êtes plutôt brûlure colère. Hein. Vous avez des modèles dans la Bible. Hein. Vous avez Jacob, vous avez Moïse, qui prend les tables de la loi. Vous avez Samson. Bon, peut-être, vous, votre style, c'est plutôt « Ah, là, j'en peux plus, c'est plus possible. » Alors là, vous êtes plutôt dans la brûlure dépression, n'est-ce pas hein? À petit feu. Vous avez des modèles dans la Bible, ils sont Job, vous avez Jérémie, vous avez le roi Saül aussi, vous avez Élie, Élie qui s'assied, qui attend, qui dit non là je ne peux pas, mieux vaut mourir. Peut-être vous êtes plutôt dans le schéma, oh ben j'en ai marre, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, c'est toujours sur moi, et voilà, et voilà. Et là vous êtes plutôt dans le râleur professionnel, mais vous avez aussi vos modèles dans la Bible. Hein. Prenez Jonas. Prenez Marthe, la sœur de Marie, prenez le frère du fils prodigue. Les brûlures que nous portons en nous sont diverses et variées. En fait, elles sont dans nos entrailles, et puis elles s'invitent et nous y sommes soumis d'une certaine manière. Et puis, le motif qui les a déclenchées, qui a fait que nous nous sommes rentrés en crise, il peut paraître parfois dérisoire. Mais s'il a eu autant d'effet, c'est qu'en nous, ça a correspondu à quelque chose qui était déjà présent. Il y avait quelque chose qui nous a fait dire « c'est toujours comme ça ». L'autre jour, j'entendais mes voisins se disputer. Il y avait de l'eau dans le gaz, dans le couple, manifestement. C'était de l'autre côté de la barrière, je ne les connais même pas. Mais j'entendais ces paroles « c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça ». Plusieurs fois, c'est revenu. Je crois que ce qui donnait le signal de cet emportement, c'est qu'il y avait une résonance avec des choses qui étaient restées, qui s'étaient accumulées. Et là, subitement, j'ai vu que j'étais piégé, j'étais là à voir que j'avais raté quelque chose, qu'il y avait une situation dans laquelle je n'étais pas à ma place. Et cette rancœur, cette déception, elle me renvoyait à une image de moi qui était bien trop loin de ce que j'avais imaginé quand je me voyais prince, quand je me voyais princesse, quand je me voyais fils de Dieu. Et maintenant, je vois là, je n'existe pas, je ne suis rien, parce que dans cette situation, je suis nié. Alors nos brûlures, c'est vrai, ne sont pas toujours liées à un échec personnel. Des fois, ça boue en nous pour des motifs qui sont tout à fait légitimes. Une situation me paraît injuste, qu'elle me paraît révoltante, elle n'est pas acceptable. Et il est normal qu'en moi, ça boue, ça monte. Parce que les règles morales qui sont en moi me disent « non, c'est pas possible, ce n'est pas acceptable ». Mais en même temps, je ne peux pas donner de réponse. En même temps, je n'ai pas d'issue. Et ça boue, et ça me brûle, et ça me chauffe. Et d'ailleurs, Dieu se met en colère. Dieu est présenté dans l'Ancien Testament surtout, mais aussi dans le Nouveau Testament, comme le Dieu de la colère. Quand Jésus vient purifier le temple, qu'il chasse les marchands comme des voleurs, il est en colère. Le mot « ardente colère » est un mot qui revient souvent dans la Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes. Ils retiennent injustement la vérité, ils la tiennent captive. Le prophète Jérémie disait, lui, de son côté, « Ah, les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de Dieu. » Voilà la colère de Dieu qui se met en œuvre. Alors voilà, diversité de nos brûlures, diversité des situations, certaines louables, certaines pas. Mais nous sommes avec une brûlure. Que ça aille du simple agacement dans une file d'attente, le jour où justement, voilà, je m'étais déjà mal organisé, et en plus il y a ce clampin là devant moi, là qui, il n'avance pas. Peut-être que c'est une parole blessante que j'ai entendue, mais justement de la part de quelqu'un en qui j'avais mis ma confiance, et je suis déçu par cette personne, et vraiment c'est lourd à porter. Peut-être, est-ce que je suis en déception de ne pas arriver à rentrer en amitié avec peut-être un camarade dans la cour du lycée, je ne sais pas. Peut-être est-ce une déception sentimentale qui vient se briser sur mes illusions, que je découvre là. Ou bien est-ce que dans mon travail, j'ai subi l'humiliation d'un manque de considération qui a fait qu'on me regarde comme si je n'étais rien, comme si je n'étais qu'un pion. Autant d'étiquettes qui sont là, que je mets dans mon album de souvenirs. Alors est-ce qu'il faut que j'attende que l'album soit plein pour commencer à réagir? Nous avons un exemple de quelqu'un qui a vécu une brûlure particulière, c'est Jacob. Alors Jacob, il a un nom qui est porteur de sens. Dès sa naissance, on l'appelait Jacob, c'est-à-dire en gros le traître, l'usurpateur. Il faut dire que quand il est sorti du ventre, il était jumeau, et quand il est sorti du ventre de sa mère, il est sorti deuxième, il s'était fait griller la priorité par son frère. Et il tenait ce talon-là. Alors quand on a vu ça, ses parents, ils ont dit, celui-là, c'est Jacob. Il prend le talon, il est teigneux. Et oui, et puis Ésaü, c'était le chouchou de son père, et Jacob, lui, il aurait bien aimé, mais voilà, lui, avec sa mère pour lui. Et finalement, toute sa vie, il a vécu de ruses et il a exploité des situations. Un jour, il a récupéré le droit d'aînesse de son frère en vendant un plant de lentilles. Ça, vous connaissez cette histoire. Et puis, un peu plus tard, au moment où son père allait mourir, il donne la bénédiction à Ésaü, bien sûr, c'est à lui. Enfin, pour Jacob, il n'y aura rien. Et bien Jacob ruse, et sous l'instigation de sa mère, il se fait passer pour son frère, et il pique la bénédiction à Ésaü. Bon, ça n'a pas été terrible, hein. Il a fui, parce que forcément, Ésaü était dans une colère noire ce jour-là. Hein. Alors il est parti, il a fui, il est allé dans le pays d'origine de sa mère, et puis là, il voit, il va pour se marier, il trouve Rachel, la belle Rachel, il en tombe amoureux éperdument, il demande à l'épouser, son beau-père lui dit, bon d'accord, tu me sers pendant 7 ans, et puis tu pourras l'épouser, et puis il se fait tromper, n'est-ce pas? Au moment du mariage, on lui refile Léa, bon elle était belle Léa, elle avait des beaux yeux, mais quand même, lui c'était Rachel qui voulait. Bon allez, tu peux rester encore 7 ans, et tu auras aussi Rachel. Et puis, bon, il n'a plus rien, et puis il continue à servir, et puis il n'en peut plus, quoi, hein, parce que Laban l'exploite. Et Jacob se rend compte que lui, qui a trompé, finalement, il est trompé. Alors, un coup, il est l'objet, un coup, il est celui qui trompe. Ça ne peut pas aller. Et il prend un jour au moins une décision, tout seul. Hein, il décide de partir, de retourner dans son pays, quoi. Hein, et il s'en va, mais comme il est Jacob, hein, alors... il s'en va à la sauvette, en prenant ses clics et ses claques, ses deux femmes, ses enfants, et il se sauve. Et forcément, son beau-père, Laban, le rattrape, et enfin le reproche. Et bien, ce jour-là, ça a pété, comme on dit. Hein. Jacob, trop c'était trop, quoi. Ce jour-là, Jacob ne pouvait plus accepter ce qu'il avait vécu, et il s'est redressé, et la colère est montée en lui, il a cherché querelle à son beau-père. Il dit, ça fait 20 ans que j'ai passé chez toi, 7 ans pour servir une première femme, 7 ans pour une deuxième, et puis j'avais froid, tu ne m'as pas aidé, j'avais trop chaud, et chaque fois tu me volais, et chaque fois tu changeais mon salaire, 10 fois tu me changeais mon salaire. C'était trop pour Jacob, il a laissé exprimer cette colère, et je crois qu'à partir du moment où il a laisser partir cette colère, eh bien, c'était le point de départ qui a permis à Jacob de devenir un autre homme. Effectivement, il a quitté son beau-père. Finalement, ils ont mis une barrière, ils ont dit, bon, allez, on se sépare, ça sera mieux comme ça. Mais pour autant, la peur n'avait pas quitté le cœur de Jacob. Et dans la vie de Jacob, il y avait un autre rendez-vous qui était là. C'est celui de régler ses comptes avec son frère, hein, de régler le problème qu'il avait laissé bien des années avant. Et à la veille de cette confrontation, la Bible nous dit que Jacob lutte avec l'ange de Dieu. Et au cours de cette lutte, il y a cette parole tellement forte, hein, où Jacob, avec l'ange de Dieu, engagé dans le combat de tout son cœur, lui dit « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Et l'ange de Dieu bénit Jacob. Et ce jour-là, Jacob, l'usurpateur, a changé de nom. Il est devenu un autre homme. On l'a appelé Israël, c'est-à-dire, ça veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Alors, nos traductions disent souvent celui qui a lutté et qui a vaincu. Alors, on dit, mais est-ce qu'il a vaincu Dieu? Non. La version Chouraki traduit cela en disant celui qui a lutté avec Elohim et avec les hommes, et il a pu, et tu as pu. Tu as pu enfin réaliser quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui a gagné. Alors effectivement, le lendemain, Jacob a rencontré son frère et ça s'est bien passé. Ils ont pu regarder ce passé. Il était là, Jacob, d'une manière apaisée, apaisée de cette rencontre avec Dieu. Il est soumis, mais en même temps, il sait que la bénédiction de Dieu lui est acquise et c'est peut-être ce qui lui a permis de trouver la paix avec son frère et à son frère de lui pardonner. Alors, m'appuyant sur ces histoires de brûlure, hein, j'aimerais qu'on suive la pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu, je l'ai trouvée dans le psaume 4. Hein. Le psaume 4, dans sa partie centrale, dit un ensemble de phrases courtes et que j'ai vu comme le traitement de Dieu des brûlures. Le protocole de guérison d'une brûlure selon Dieu. Ça commence par un « agitez-vous ». Certaines traductions disent « mettez-vous en colère ». Bon, ça peut paraître surprenant de commencer le traitement en disant « allez, mettez-vous en colère ». C'est étonnant de la part d'un Dieu de paix, d'un Dieu d'amour. Eh bien oui, les parents, quand vous arrivez et que vous voyez votre charmant enfant occupé à arracher consciencieusement toute la tapisserie du salon, eh bien non, ce n'est pas le temps de la zen attitude. Hein. Assumez votre colère. Hein. Ce n'est pas incompatible avec l'amour. Hein. L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors peut-être que le motif de votre brûlure est moins avouable, hein, qu'il est moins clair, hein, qu'il est moins bien typé. Mais ne cherchez pas à étouffer votre colère. Il y va de votre santé psychique et spirituelle. Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Paul demande de gérer au plus vite notre colère, hein, pas de l'étouffer. La brûlure intérieure, c'est vrai que c'est un moteur qui est puissant. Moi, je pense qu'il est aussi nécessaire par moment. Il peut être utilisé. Alors, tout à coup, je ressens, je dis, ça ne va pas, ça ne peut plus durer comme ça. Bon, eh bien, c'est peut-être justement un rendez-vous que Dieu m'a fixé pour commencer le processus. Ressentir la brûlure, c'est forcément voir un septum. Alors ce n'est pas la peine de me culpabiliser parce que en moi est montée cette brûlure. Elle est là. Ce qui est important, c'est ce qui est avant. Et si je l'exprime à travers une crise, eh bien c'est peut-être là, effectivement, un point de départ qui va m'amener jusqu'à une guérison. Bon, vous savez, même si on ne va pas au bout du traitement, hein, on a toujours intérêt à hurler quand on nous marche sur les pieds. Le deuxième point, qui est indissociable du premier. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Par plusieurs fois dans la Bible, les deux mots sont associés. Colère, ne pêche pas. Parce qu'il s'agit de gouverner cette colère. Il s'agit de voir avec cette brûlure, qu'est-ce que je vais en faire? C'est un moment où effectivement tout peut basculer. Est-ce que ça va me faire basculer dans le fait que je ne m'améliore pas à la portée, hein, comme dit Chouraki, hein, comme traduit Chouraki la parole de Dieu, hein. Est-ce que tu vas dominer cette brûlure, hein, ou bien est-ce que elle va t'emporter? Est-ce que tu vas sombrer? Parce que c'est vrai que nos brûlures, ça a à voir avec la passion, hein, qui est en nous. Et quand la passion nous met en mouvement, c'est vrai que nous sommes vulnérables parce que nous pouvons être injustes à ce moment-là. Nous nous centrons sur nous-mêmes, c'est le moment où nous regardons en nous et notre expression à chaud peut être blessante pour l'autre. Alors, ce jour-là, vous, les parents, hein, quand votre enfant y tenait sa glace et qu'elle est tombée, hein, vous avez eu cette parole de lui dire « Mais j'en ai marre de toi !» C'était une parole de colère, c'était une parole qui était blessante ce jour-là pour cet enfant. Et peut-être que si dans la même journée, votre patron n'avait pas jeté un regard sur votre travail et vous avait dit « Mais attendez, si vous faites comme ça, allez apprendre votre métier » et que vous n'avez rien pu dire, que vous êtes resté bouche bée parce que vous n'y pouviez rien, mais voilà, et votre enfant, il renverse sa glace et vous lui dites « J'en ai marre de toi !» alors que vous auriez pu lui dire « Attention !» Il faut faire attention, je vais t'apprendre comment on peut faire plus attention. C'est ce que vous auriez aimé entendre. Combien d'expressions de notre colère inappropriée vont ainsi pourrir la vie de notre entourage parce que nous nous trompons de cible. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est révoltant, qui nous anime et nous en faisons porter le poids à celui qui n'y est pour rien. Le péché, c'est rater la cible. Dans mes colères, je peux me tromper de cible quand je fais porter ma colère à celui qui n'y est pour rien. Alors, parlez en votre couche. Parce que la pédagogie de Dieu, c'est cette question. Tu dois répondre. Pourquoi ça te brûle? Vous savez, il y a des gens qui payent des fortunes pour se faire analyser, hein, pour avoir une oreille attentionnée. Bien, nous, en tant que chrétiens, nous connaissons Dieu. Dieu, ça a été prié tout à l'heure, il tend son oreille vers nous. Dieu entend quand je crie à lui. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Eh bien, il est nécessaire de voir clair dans notre vie, de regarder en face nos petits arrangements, des choses que l'on a cachées, des choses que l'on n'a pas voulu, et de les dire à Dieu, de les étaler devant Dieu, de les montrer à Dieu, de les confesser. Dieu, dans nos insomnies, n'est pas là pour nous juger. Il est là pour entendre notre confession. Est-ce que c'est vraiment cet événement-là qui te fait partir au quart de tour, ou bien est-ce qu'il évoque quelque chose chez toi qui te condamne, que tu as déjà condamné? Moi, je ne te condamne pas, dit Dieu. Et la paille que tu vois chez l'autre et qui te fait tellement réagir, est-ce qu'elle n'est pas de la même nature que cette poutre que tu portes en toi? Ah, on n'aime pas voir nos défauts chez les autres. Ça nous met... Et en même temps, le fait de regarder à l'intérieur de nous-mêmes n'est pas une fin, ce n'est pas l'étape ultime. Parlez en votre cœur et puis taisez-vous. Parce que Dieu ne veut pas simplement que nous étalions nos choses. Dieu veut que nous allions jusqu'à la guérison. Alors là, il faut se taire. Parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Parce que là, c'est le moment où Dieu entre en scène avec son projet pour nous. Parce que Dieu est venu pour nous guérir. La Bible ne présente pas simplement une philosophie de la vie. Elle nous révèle la personne d'un Dieu qui aime chacun de ses enfants et qui sauve. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos irritations. Bon, après un petit examen de conscience, ça va, ça, on remet les choses en place. Mais dans notre vie, il y a aussi le lourd. Il y a ce que je ne peux pas gérer moi-même. Il y a ceux qui demandent des moyens qui ne sont pas à ma disposition, hors de ma portée. Alors, offrez des sacrifices. Offrez des sacrifices, c'est quand je regarde dans ma vie, que mon regard est sincère. Pour une fois, je ne cache pas les choses, je ne me voile pas. Les souffrances, oui, j'ai été victime de souffrances. Et en même temps, j'ai aussi, par moments, joué le bourreau pour les autres. Et là où je pensais être victime, je découvre que moi aussi, j'ai reproduit souvent le même schéma destructeur. Et je me découvre coupable. Oui, le fermier bat la fermière. La fermière bat son enfant. L'enfant bat son chat. Et Jésus est venu. Et sur la croix, il a vaincu la mort. Jésus est venu. C'est justement de nos douleurs dont nous souffrions qu'il s'est chargé. Et puis nous l'avons considéré comme puni, comme rejeté par Dieu, humilié. Mais c'était pour nos blessés, pour nos péchés qu'il était blessé. C'était à cause de nos iniquités qu'il était brisé sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix, ce châtiment-là est tombé sur Jésus-Christ à la croix. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est vrai que Jésus était lui-même tenté, comme nous-mêmes. Et il a souffert, comme nous. Et c'est pour ça qu'il peut nous secourir quand nous sommes tentés. Alors c'est vrai que le sacrifice de justice, il est accompli par Jésus sur la croix. Mais c'est vrai, il est aussi nécessaire que je me l'approprie. On a parlé d'un héritage il y a 2 semaines. Cet héritage, nous l'avons. Faut-il encore que nous en prenions possession? Faut-il que je demande pardon? Faut-il que j'aille vers celui qui a quelque chose contre moi? C'est le temps du sacrifice de justice. Certaines actions sont nécessaires. C'est Dieu qui me dira lesquelles. Mais ma dette est immense. Et de toute façon, je ne pourrai pas la payer. Qu'est-ce que je peux apporter qui ait quelque valeur? Et Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré. Je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Ne crains rien, je suis avec toi. Et cette parole de Dieu que nous recevons nous fait du bien. La seule valeur que nous pouvons offrir à Dieu, c'est ce qui a du prix à ses yeux. C'est mon cœur. Alors, oui, Dieu recueille, accepte cette offrande d'un cœur bien disposé. Dieu l'accepte. Alors nous abordons là maintenant la dernière étape. Confiez-vous en l'Éternel. Dans cette dernière étape, c'est la foi qui est décrite. C'est cette foi qui compte. C'est la foi qui devient justice. Quand on dit « confiez-vous à l'Éternel », c'est pas simplement un petit encouragement à positiver, à dire « allons, ça va aller mieux, on croise les doigts ». Non. La blessure qui me fait souffrir a besoin d'être cautérisée. Et elle sera cautérisée par le feu de Dieu. Parce que la guérison va être totale. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Alors si je me confie en l'Éternel, j'attends de lui qu'il vienne apporter cette guérison. Vous savez, se confier, c'est pas simplement un détachement qui nous permet de relativiser les choses. Ah, si Dieu le veut, alors les choses vont s'arranger. Ça, c'est du fatalisme. Moi, ce que je vois dans le processus de guérison de Dieu, c'est que quand je saisis sa promesse, alors maintenant je l'attends. Et je prie qu'il l'envoie. Et je la réclame de tout mon cœur, je l'attends. Parce que il y a cette passion en moi. Et cette passion doit être retournée dans une victoire pour Dieu. Mais lui seul peut me la donner. Dans le processus de guérison que Dieu a enclenché avec moi, il y a un homme nouveau qui va naître. Il y a une passion nouvelle. Et c'est comme un vin nouveau. L'outre qui la contient doit être également changé. Seigneur, si ce n'est pas toi qui interviens, je sombre, j'éclate, j'explose. Aie pitié de moi, fais-moi grâce. Mais en toi, je suis comblé d'amour. Et quand Dieu fait descendre sur moi son esprit de consolation, il veut qu'il y ait ce cœur qui l'attende, qui le réclame, comme la fiancée attend son époux. Eh bien, je crois que c'est à ce prix-là, à ce prix d'amour et de relation avec Dieu, que mon passé est neutralisé. Que tout ce qui en moi a été l'objet de ma brûlure. Pourquoi ça te brûle? Eh bien, pour cela, pour ce pourquoi je brûle, cela n'a plus d'effet sur ma vie aujourd'hui, parce que Dieu est là, parce que Dieu m'a pardonné, parce que Dieu l'a rendu inopérant. Et parce que maintenant, j'existe aux yeux de Dieu. Et tout le reste est devenu dérisoire. Ce qui avant pouvait être un levier chez moi, ce levier-là a été brisé à la croix. Le chemin de souffrance m'a finalement conduit à la paix de Dieu. Et Dieu le fait pour celui qui croit. Vous savez, c'est Boris Cyrulnik, qui est un Toulonnais célèbre, qu'on voit dans les médias. Il a eu une belle parole. Il a dit « La résilience, c'est quand l'huître fait une perle de la blessure de ses entrailles. » Parce qu'il s'appuie sur un phénomène biologique. C'est vrai que l'huître qui produit une perle produit cette perle à partir d'un grain de sable qui l'a blessée à l'intérieur. Et pour se protéger contre ce grain de sable, eh bien, au fil du temps, elle l'entoure, elle le neutralise. Et cette neutralisation, c'est une perle. C'est la perle de culture. Le grain de sable était une blessure. Mais au fond, il a permis de se reconstruire. Il a été un point de départ. C'était destructeur au départ. Mais par une saine gouvernance, c'est-à-dire par un usage en Dieu du gouvernail. Cette puissance de destruction a été transformée par Dieu en œuvre belle. Et la Bible dit aussi que le malheur a quelque chose d'utile. Ce fut le cas pour Job. Job dit, enfin ce n'est pas Job qui le dit, mais c'est dans le livre de Job, et Élihu dit « Dieu délivre le malheureux par son malheur même ». Et effectivement, au bout du chemin, d'un chemin de souffrance, d'un chemin de brûlure douloureuse, Job, dans sa révolte, au bout de sa révolte, dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit, mon œil t'a vu. » Eh bien, quand on sort d'une confrontation avec Dieu, parce qu'on l'a convoqué, parce qu'on l'a appelé, eh bien, je peux vous témoigner qu'on ressort transformé. Et les choses du monde n'ont plus du tout le même effet sur vous. Bon, il est même possible que votre environnement ne change pas. que ce qui vous tenaillait avant, au point de vous rendre la vie insupportable, et d'ailleurs que vous rendiez bien à votre entourage, parce que vous aussi, vous, hein, à cause de ça, vous polluez bien l'atmosphère. Eh bien, peut-être que c'est toujours en place, avec la même intensité. Mais vous découvrez que cela n'a plus de prise sur vous. Parce qu'en vous, il y a une richesse trouvée en Dieu. Il y a tout l'amour de Dieu qui vous comble. Vous vous savez accueilli par lui. Vous vous savez approuvé dans votre démarche, en sécurité. C'est lui qui est ma sécurité. Alors, que peuvent me faire les hommes ? Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Psaume 50. Contempler son ennemi, voilà bien ce qui devient possible pour celui qui a une brûlure apaisée. Contempler, ça ne veut pas dire se réjouir de son ennemi. Même si je porte la joie dans mon cœur, ce n'est pas à cause de la méchanceté de mon ennemi, mais c'est parce que je peux le contempler, je peux regarder à son intérieur. Je peux sereinement regarder cet ennemi et voir comment il agit, quels sont les mécanismes qui sont en lui, et de voir combien ces mécanismes ont pu me faire du mal en un temps, et combien aujourd'hui j'en suis délivré. Et je vois que mon ennemi continue dans son scénario. Il répète, mais là je ne suis plus là pour m'énerver, je ne suis plus là pour être déprimé par lui. Et peut-être que quand il découvrira qu'il n'a plus de prise sur moi, que le schéma dans lequel il était est un schéma qui était inacceptable, peut-être que ce sera pour lui le point de départ d'un chemin de justice. Ça, c'est le miracle de la vie. Je crois que quand nous manifestons nos brûlures, si nous les laissons nous gouverner, alors c'est contagieux pour notre entourage. Je crois aussi que celui qui a trouvé la paix en Dieu, qui a réglé le problème de sa brûlure intérieure à la croix, celui-là resplendit de la lumière de Dieu. Et il dégage autour de lui une autre odeur, une odeur de paix. Alors il s'agit donc pour nous de tourner le dos à ces passions qui viennent du monde, qui nous rendent des captifs, qui nous revendiquaient. Nous les délaissons. Et nous nous dirigeons vers celui qui nous comble de son amour, celui qui nous donne une vraie liberté, qui fait que nous pourrons agir en toute liberté parce que nous nous savons aimés de Dieu, alors que à lui seul revienne toute la gloire de nos guérisons.